avant que je présente le conférencier de ce soir, je vais passer la parole à Monsieur Philippe Vandemalle, qui est le président de l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui va nous dire, je dirais d'abord, qu'est-ce que c'est que cette agence dont il est le président, et en même temps, quelles sont les raisons du partenariat de l'ADEME avec l'Université de Tous les Savoirs pour ce cycle de conférences. Monsieur Vandemalle, je vous passe le micro.
Merci, Monsieur le Président. Oui, très rapidement, sans prendre trop sur la conférence inaugurale de François Moisan. Donc l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, se réjouit de ce partenariat. Je crois qu'on est, à un moment vraiment important de l'histoire des sociétés et de l'économie. Juste pour rappeler un peu le contexte international, nous sommes en plein débat, en pleine réflexion, en pleine négociation sur les engagements face aux problématiques du changement climatique, dont on espère que ces conclusions seront productives et aboutiront à un accord international à Copenhague au mois de décembre, et qui auront un impact très important sur la société, sur l'économie en général, et c'est un point important. Deuxième aspect important qui est en fait les conséquences du Grenelle de l'environnement. Vous savez, c'est un processus qui a eu lieu en 2007 de réunir l'ensemble des partenaires de la vie économique et civile du pays pour pouvoir conduire à un certain nombre d'engagements, hein, qu'on appelle les engagements du Grenelle environnement, pour entamer cette mutation de la société, cette mutation de l'économie qui est face à nous. L'enjeu est assez phénoménal, hein, résumé dans la notion de facteur 4, qui est l'objectif pour les pays développés de réduire par 4 leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment une démarche importante. On est vraiment dans cette période essentielle et charnière où d'ailleurs la sensibilisation sur ce sujet de développement durable et du changement climatique est vraiment de plus en plus prégnante dans la société. Ces changements sont très importants. Et donc le thème en plus aujourd'hui, enfin dans tout le cycle de conférences qu'on fait en partenariat avec l'UTLS, porte sur la croissance verte, parce qu'effectivement, cette mutation est aussi l'occasion d'activité économique aussi, qui porte sur de nombreuses thématiques. Alors on a des grands enjeux devant nous. Le premier enjeu porte sur les émissions de gaz carbonique, qui est donc l'efficacité énergétique par rapport à l'émission des gaz à effet de serre. On a aussi, qui est une démarche très importante et très ancienne à l'ADEME, hein. L'ADEME a été, je crois, un des piliers des réflexions dans les années précédentes, a nourri le Grenelle de l'environnement auprès de tous les partenaires pour aboutir à cet accord, et qui concerne la maîtrise de l'énergie qui avait démarré avec les premiers chocs pétroliers, qui ont un peu perdu de leur dynamisme, mais qui reste un enjeu important. La première source d'énergie renouvelable, c'est moins consommer d'énergie. Il faut le rappeler, c'est important que ce soit lié à l'efficacité du matériel ou même au comportement des gens. Hein, il y a des enjeux très importants. Alors, on lit ça aussi à la croissance verte. Effectivement, pour arriver à cet objectif-là, il y a beaucoup d'actions à mener. Hein. Alors, les principaux postes qu'on cite généralement face à ça sont les problèmes de transport, les problèmes du bâtiment, l'agriculture, et puis tout ce qui est maîtrise de l'énergie. Juste rappeler, par exemple, pour le bâtiment, la consommation énergétique des bâtiments en France représente 42% de l'énergie consommée dans le pays et 25% des émissions de gaz à effet de serre. On a des pourcentages aussi importants sur le transport et sur l'agriculture et sur l'ensemble de l'industrie. Exemple, si on rénovait l'ensemble du parc bâti, hein, qui est très ancien, qui sont pour nombre d'entre eux de vrais passoires thermiques, on permettrait d'économiser 50% de l'énergie liée au bâtiment et de réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre. Donc on est dans cet axe-là. Ça peut générer, les estimations oscillent entre 200 et 300 000 emplois pour pouvoir porter cet énorme chantier de rénovation thermique du bâtiment, parce que ce ne sera jamais en un an vu le nombre de bâtiments à rénover. Autre aspect important, c'est tout ce qui est les sauts technologiques. On n'arrivera pas effectivement à atteindre cet objectif facteur 4 sans qu'il y ait d'énormes actions en termes de recherche, d'innovation, que ce soit sur le transport, sur le bâtiment, sur les sources d'énergie. Et à ce titre-là, l'ADEME s'est vu confier, dans le cadre du Grenelle environnement, une énorme action portant sur ce qu'on appelle les démonstrateurs de recherche, mais je pense que François Moisan vous en reparlera probablement, vous pourrez répondre à vos questions, qui est d'accompagner l'ensemble des industries, des laboratoires de recherche pour finaliser ces sauts technologiques. Alors on parle souvent des véhicules propres, on parle aussi de tout ce qui est j'allais dire, les biocarburants de deuxième génération, mais il y en a beaucoup d'autres, les énergies marines, les réseaux électriques intelligents. Donc c'est l'ensemble de ces actions que l'ADEME est chargée de coordonner. Et dans ce cadre-là, eh ben, une des missions aussi est de sensibiliser, faire comprendre, faire connaître l'ensemble des actions. L'enjeu est tel qu'on a souhaité effectivement s'associer à l'UTLS pour pouvoir porter ce message et débattre et pour porter la réflexion et les questionnements sur ces sujets-là. On a devant nous vraiment un grand chantier. Ça va aussi très très loin, puisque l'ADEME travaille aussi sur les notions de production et de consommation durable, qui porte sur aussi bien la consommation énergétique des produits que dans le cycle de vie, que les notions des déchets, qui sont aussi un enjeu très important pour les sociétés, notamment les sociétés comme la France. Et donc, on intervient, et je crois qu'il faut, dans ce domaine-là, là aussi, pousser l'innovation, pousser la recherche pour que nos produits, en tout cas ceux qu'on consomme, soient ce qu'on appelle éco-conçus, c'est-à-dire qu'ils aient permis de réduire fortement la consommation d'énergie dans leur conception, dans leur cycle de vie, ainsi que la consommation de matière. On va petit à petit vers une société où on va vers, non pas la rareté, mais en tout cas la nécessaire mesure dans la consommation des biens. Alors on pense à l'énergie, mais aussi des biens matériels. Donc voilà un peu le cadre global. Comme c'est la première conférence, effectivement, on souhaitait pouvoir présenter ça. C'est sur une quinzaine, sur trois semaines, si je ne me trompe pas, hein, l'ensemble du cycle. Ces sujets sont importants. Il faut diffuser et sensibiliser sur le sujet. Et je suis ravi qu'il y ait autant de monde aujourd'hui à ce type de conférence. Voilà, c'est très rapidement ce que je voulais dire avant de vous laisser la place aux vrais savants et aux vrais universitaires.
Merci. Merci, monsieur Van de Maal, donc pour cette présentation. Donc, nous allons reprendre. J'ai oublié deux choses. La première, c'est penser à éteindre les téléphones portables. Je commence toujours par ça, mais là, cette fois-ci, j'ai oublié. Puis, deuxièmement, ça me rappellera un souvenir aux quelques rescapés de l'an 2000, puisque l'amphithéâtre est un peu, n'est pas des places individualisées. Si vous pouvez vous serrer un petit peu sur les bancs pour que ceux qui sont en haut puissent s'installer. Il reste des places par là. Donc, on peut tasser un peu, hein. Sinon, on peut suivre les conférences dans un autre amphi par vidéo, mais ça sera aussi bien s'il reste des places dans le bas, si vous voulez descendre. Voilà, donc je vais présenter maintenant notre conférencier de ce soir, François Moisan. Il est directeur scientifique à l'ADEME. Il est en grande partie à l'origine de cette programmation, de cette série de conférences. Il est ingénieur de l'École supérieure d'électricité, docteur en sciences économiques. Sa carrière a été consacrée, depuis le départ quasiment, à la recherche sur l'environnement, le développement et l'économie du développement dans le cadre de la préoccupation de l'environnement. De 1975 à 1977, il a été chercheur au Centre international de recherche environnement et développement, puis ensuite ingénieur à la direction du programme énergie solaire du CNRS, secrétaire à la mission utilisation rationnelle de l'énergie au ministère chargé de la recherche. Donc vous voyez, ses préoccupations ont toujours été tournées vers l'économie de l'énergie et l'économie de l'environnement. De 92 à 97, il a été chargé, de 83 à 91, il a été chargé de mission à la direction scientifique, puis chef des services économie et programmation de la recherche de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie. Depuis 2003, il est directeur scientifique. Je saute un petit peu. Hein. Depuis 2003, il est directeur scientifique de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, rapporteur de l'instance d'évaluation de la politique de maîtrise de l'énergie. Il a contribué à de nombreux rapports et publications sur la prospective de l'énergie et de l'environnement. Donc, il va maintenant traiter le sujet de ce soir, diviser par 4 nos émissions de CO2 d'ici 2050. Est-ce possible? Bon, j'espère que c'est possible. De toute manière, j'espère que c'est possible pour nos enfants. Donc, il va parler pendant une cinquantaine de minutes. Et puis ensuite, bien sûr, il répondra à vos questions. Voilà, merci. François Moisan, c'est à vous.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Yves Michaud, pour cette introduction. Bonsoir à tous et merci d'être venus. Je suis très, très heureux d'être à Paris. C'est vrai que j'étais à Bordeaux hier soir pour la première conférence. J'étais aussi heureux d'être à Bordeaux, mais je suis heureux d'être à Paris. Je suis parisien, alors je suis très heureux d'être là parmi vous. Alors, effectivement, l'objet de ma présentation aujourd'hui, de cette première conférence, du cycle de conférences, c'est le facteur 4 comment, c'est essayer de vous montrer que cet objectif de diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050, c'est quelque chose de possible. Et surtout, je dirais que ce n'est pas quelque chose qui va résulter d'une contrainte environnementale, certes, mais qui est aussi source d'opportunités. Ça a été évoqué par Philippe Vandemalle. Cette contrainte est aussi facteur d'opportunité, d'activité, de croissance, d'emploi et, je l'espère, de bien-être. Alors, tout d'abord, vous rappelez effectivement quelques-uns des défis auxquels nous sommes confrontés actuellement, des défis environnementaux, le changement climatique, c'est là-dessus que je vais centrer mon exposé, mais nous avons également d'autres défis qui peuvent être liés à la raréfaction des ressources, à l'énergie fossile, vous savez tous les problèmes que nous avons vis-à-vis du pétrole, des ressources en eau, des matières premières qui aussi se raréfient, la perte de biodiversité qui est accélérée par le changement climatique, et le réchauffement de la Terre. Et puis des problèmes, je dirais, peut-être que nous pouvons dominer à plus court terme, pour lesquels nous trouverons peut-être plus facilement des solutions, mais qui restent néanmoins des préoccupations quotidiennes sur la pollution de l'air, de l'eau, des sols et leurs impacts sur la santé. Alors, je vais cibler mon exposé sur le changement climatique avant rappeler quand même les enjeux lié à l'énergie, parce que c'est très lié au changement climatique, c'est très lié parce que au niveau des politiques de réponse, il y a des affaires qui sont communes. Je présenterai quelques éléments sur ce que les scientifiques nous disent sur le changement climatique. Je ne suis pas climatologue, donc je ne vous ferai pas un exposé sur le réchauffement de la Terre, quelques éléments d'un regard extérieur aux climatologues. Et puis après, j'essaierai d'apporter de quelle façon, effectivement, nous pouvons tenir les objectifs que nous dessinent les scientifiques. Alors, vous avez ici sur ce transparent qui illustre ce qu'on appelle la raréfaction des ressources fossiles de pétrole depuis le début du XXe siècle, depuis 1900, sur pas de temps de 5 ans. Quelles ont été les découvertes? C'est donc ces triangles verts. Le rythme des découvertes de pétrole. Et puis la courbe bleue, c'est la production, l'exploitation, et donc ce qui a été consommé, puisque même s'il y a des stocks, c'est assez rapidement consommé. Donc vous voyez qu'on a eu des découvertes très importantes, mais que ces découvertes se sont réduites en volume au cours du temps, et que dans les dernières décennies, les découvertes ont été, c'est les petits carrés bleus, surtout le fait de ce qu'on appelle le pétrole et ressources offshore, c'est-à-dire sous la mer, à des profondeurs très, très importantes. Et puis, le petit carré jaune, une découverte du plus grand gisement découvert récemment. Mais vous voyez ce que ça représente par rapport à l'ensemble des découvertes. Donc, une diminution de ces découvertes et, malgré tout, une augmentation continue de la production. Alors, il faut souligner que sur ces découvertes, jusqu'à présent, on exploite en gros qu'un tiers du pétrole qu'on trouve sous terre. Exploiter au-delà coûte plus cher. On pourra, ça veut bien dire qu'on n'est pas encore à consommer et à utiliser la dernière goutte de pétrole, il y en aura encore pour longtemps, mais néanmoins, ça va coûter de plus en plus cher, parce qu'il faudra aller le chercher de plus en plus loin, avec des techniques de plus en plus sophistiquées. Donc c'est un problème qui est devant nous, on ne l'a pas encore résolu. Alors je passe au changement climatique, l'autre enjeu, celui qui nous fixe donc ces horizons à l'horizon 2050 et au-delà. Vous avez ici l'évolution depuis 1000 ans. Encore une fois, je ne suis pas climatologue, mais c'est ce que nous ont montré les experts du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui se réunissent pour conseiller les gouvernements. Vous avez ici l'évolution des températures dans l'hémisphère nord depuis 1000 ans à peu près. Et vous voyez que cette température a faiblement évolué, plutôt en décroissance sur une grande partie de ces 1000 années qui nous précèdent, puisqu'on était vers une période plutôt de glaciation. Et puis, depuis le début du XXe siècle, une relativement brusque augmentation des températures. Alors, tout cela est relatif, vous voyez l'échelle. On a augmenté en moyenne de 1 degré depuis un siècle les températures moyennes du globe. Alors, quels sont les scénarios pour le futur? Là encore, ces experts du GIEC les climatologues ont réalisé des modèles qui essayent de modéliser le climat. Ce n'est pas modéliser la météo du jour au lendemain, c'est quelle sera la température moyenne du globe à la fin du siècle qui vient de commencer, en 2100. Vous avez sur la partie gauche du diagramme, ce qui s'est déjà passé donc au cours du XXe siècle, cette augmentation de l'ordre de 1 degré, et puis des scénarios, puisque effectivement il n'y a pas de certitude sur la température à laquelle, l'augmentation de température à laquelle nous serons à la fin du XXIe siècle. Néanmoins, les modèles nous disent que cette température sera entre plus 2 et de l'ordre de plus 6 degrés selon les modèles. Alors, cette incertitude, elle a deux raisons fondamentales. La première, c'est l'incertitude sur les modèles. Ils ne sont pas parfaits. Les climatologues savent bien qu'on n'arrive pas encore à modéliser parfaitement, à simuler tous les effets qui sont en cours. Néanmoins, ils arrivent quand même à montrer et à trouver des modèles qui s'accordent avec le passé, qu'on peut trouver relativement fiables. Et puis l'autre incertitude, c'est quelles vont être nos trajectoires d'émissions, qu'est-ce qu'on va émettre entre maintenant et, je dirais, 2050. La situation en 2100 sera prédéterminée par tout ce qui va se passer d'ici 2050 et au-delà, mais c'est surtout ce qui va se passer dans les prochaines décennies qui va être déterminant. Donc, on aura une augmentation, c'est certain, mais le volume, l'ampleur de cette augmentation est encore entre nos mains. Alors, si on regarde maintenant quelles sont justement ces trajectoires d'émissions, vous avez ici un graphique qui illustre le cheminement possible au cours du XXIe siècle, avec en ordonnée cette fois les émissions. Alors, ce sont les émissions de gaz à effet de serre, avec le point dont on part, vous voyez, en gros, 28 gigatonnes de CO2 par an. 28 milliards de tonnes de CO2 sont émises chaque année par l'homme, par nos activités humaines. Et ces émissions résultent de la combustion pour l'essentiel, alors pour l'essentiel, pour la très grande partie, des émissions dues à la combustion de ce qu'on appelle les combustibles fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz, qui, en brûlant avec l'oxygène de l'air, produisent du CO2. Ce n'est pas le seul gaz à effet de serre et nous avons d'autres gaz comme le méthane, qui est également un gaz fortement radiatif et qui va donc avoir un impact sur le réchauffement climatique. Le méthane, c'est du gaz naturel lié aux fuites, mais c'est aussi un gaz qui est produit par les activités agricoles qui résulte de certaines cultures, de l'élevage, notamment des bovins, et qui va donc participer également, mais pour globalement pour une partie plus faible. Le CO2 représente de l'ordre de 70 à 80%, responsable de 70 à 80% du réchauffement. Au-delà du méthane, d'autres gaz sont également concernés. Mais je me concentre ici, effectivement, sur l'évolution de ces émissions. Et vous voyez que nous avons actuellement des concentrations qui sont, elles, marquées, ce sont les chiffres en noir, 385 parties par million de volume. C'est la concentration actuelle du CO2 dans l'atmosphère. Cette concentration était, avant le début de l'ère industrielle, de 270. Elle a augmenté de 30% en l'espace d'un siècle. Et les perspectives sont effectivement qu'on va donc augmenter cette concentration parce qu'on va en émettre davantage. Vous avez ici des scénarios. Un scénario rouge qui nous fait monter vers 2030 à 455 parties par million de volume. Et au-delà, 550, et ça ne s'arrêterait pas pour autant, ça continuerait à augmenter. Ce qui serait cohérent, nous avons une relation, les scientifiques font une relation entre cette concentration de gaz à effet de serre et, à la fin du siècle, la température obtenue. Donc, si on est en 2050, comme sur le graphique rouge, à 550 parties par million de volume de CO2 dans l'atmosphère, ça veut dire que au-delà, vers 2100 et au-delà, on aura une augmentation de 5 à 6 degrés. Je dois dire qu'actuellement, la trajectoire des émissions, nos émissions, c'est au-delà de la ligne rouge. On est au-dessus depuis quelques décennies. Les augmentations liées aux activités humaines sont encore plus importantes que cette trajectoire haute. Donc l'objectif, c'est d'infléchir. On n'est quand même pas encore très très loin sur ce 21e siècle, c'est d'infléchir. Donc on a un scénario vert qui fait qu'en gros on continue quand même à augmenter les émissions jusqu'en 2030, puis après on baisse, puis un scénario bleu où on s'y met plus rapidement, pratiquement dès maintenant, et le scénario bleu c'est celui qui nous permet in fine d'obtenir finalement en 2100 445 ppm en 2050 et stabiliser ces émissions en 2100, une augmentation limitée à 2 degrés. Ce que nous disent les scientifiques du GIEC, c'est si nous voulons éviter des bouleversements qui peuvent être irrémédiable sur Terre, c'est-à-dire des déplacements de population très importants. Nous aurons de toute façon des impacts importants, mais si nous voulons éviter vraiment des situations irréversibles, il faut limiter absolument à 2 degrés. Il faut donc, pour ça, obtenir en 2050, le chiffre, vous voyez, c'est 14, si vous tracez cette droite, vous arrivez, il faut passer de 28 à 14 gigatonnes divisé par 2. Par 2, les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors ça, le divisé par 2, c'est ce que nous disent les scientifiques du GIEC. Maintenant, quand on passe au facteur 4, c'est une décision politique. Dans la négociation internationale qui a été évoquée en introduction de ma présentation, à Copenhague, à la fin de l'année, tous les pays, dans le cadre de l'ONU, se rassemblent pour prendre des décisions concernant des engagements futurs. Nous sommes face, nous, pays développés, à des pays comme la Chine et l'Inde, des pays émergents qui ont une croissance de population. Et l'objectif du facteur 4, c'est de se dire, nous, pays développés, nous avons à prendre une partie plus importante du fardeau, même si ce ne sera pas qu'un fardeau, nous avons à prendre une partie plus importante du fardeau et à permettre aux pays en développement de se développer et d'augmenter pour partir leurs émissions. Donc la décision qui a été prise, c'est nous, pays développés, on va diviser par 4, et puis les pays en développement, ils vont continuer leur croissance, mais stabiliser à terme leurs émissions. Alors c'est tout l'objet de la conférence de Copenhague. Alors pour illustrer ça, vous avez ici cette répartition des 28 gigatonnes, 28 000 milliards de tonnes de CO2 par an dans le monde. Vous avez les émissions par tête de chacune des régions du monde. Alors le premier rectangle brun, s'il est bien brun, oui, celui de gauche, brun-rouge, c'est les émissions par tête des Américains, 19 tonnes de CO2. Un Américain moyen émet 19 tonnes de CO2 à travers ses consommations d'énergie, ses consommations qui elles-mêmes génèrent des émissions de gaz à effet de serre. Et puis après, vous avez le Japon en plus jaune, le bleu sombre, l'Europe. Alors l'Europe, nous sommes autour de 7 tonnes de CO2 par an et par habitant. Alors, sur l'échelle horizontale, vous avez la population mondiale. Alors ce que vous voyez, c'est que si on additionne les populations des Américains, des Japonais, de l'Europe, donc les pays développés, plus l'Océanie, on arrive à 1,5 milliard d'habitants. 1,5 milliard d'habitants qui sont à des niveaux au-dessus de la moyenne, qui est le trait rouge. Et puis, à droite, on a la Chine, qui est pratiquement à la moyenne, par tête d'habitants, mais 1,3 milliard d'habitants, l'Inde et tous les autres pays en développement. Donc on voit à travers ce graphique tout l'enjeu, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous dire on va rester à notre niveau et puis vous, pays développés qui êtes en dessous de la moyenne, vous allez rester où vous êtes et puis réduire, ou alors on va réduire un petit peu, mais vous allez aussi en faire beaucoup. Donc c'est ça qui explique un petit peu dans le débat que nous qui avons une avance sur le développement et une responsabilité historique, comme c'est dit dans la Convention climat, c'est-à-dire que les émissions passées, l'augmentation déjà réalisée, elle est due effectivement à une responsabilité historique plus grande des pays du Nord que des pays du Sud. D'où cette idée que ces pays-là, et c'est souhaitable, prendront quand même des engagements, mais des engagements, évidemment, qui ne seront pas de diviser leurs émissions, mais de les plafonner à terme. Alors, vous savez que cette affaire du changement climatique a été quand même... L'alerte a été lancée à la fin des années... à la deuxième partie des années 80 par les scientifiques. On a eu la conférence de Rio, puis le protocole de Kyoto en 1997. Le protocole de Kyoto a fixé des objectifs. Des engagements ont été pris par un certain nombre de pays. Vous savez que parmi les engagements qui ont été pris, certains les ont ratifiés, les pays européens, le Canada, le Japon. Certains n'ont pas ratifié, les États-Unis, l'Australie. Néanmoins, Kyoto était une première étape, mais elle est bien sûr insuffisante, puisqu'elle visait à réduire globalement de l'ordre de 5% les émissions des pays qui avaient signé. Les autres n'avaient évidemment pas d'engagement. Alors ça, c'est pour vous montrer qu'est-ce qui s'est passé en France depuis que nous avons pris cet engagement. L'engagement de la France était de stabiliser ses émissions, parce qu'on était déjà avec des niveaux relativement plus faibles que les autres pays. Donc depuis 1990, c'était l'année de référence du protocole de Kyoto. Vous voyez ici qu'elle a été l'évolution des émissions par grand secteur en France. Alors le cercle grisé qui entoure, c'est la référence de 1990, la contribution de chacun des secteurs par des parts de ce camembert, et puis vous voyez qu'il y a des secteurs qui ont augmenté, qui ont dépassé cette limite des émissions de 1990, donc qui ont dérapé, si je puis dire, les transports, et puis le résidentiel et tertiaire, donc deux secteurs pour lesquels les émissions sont en croissance. Des secteurs, au contraire, qui ont réduit leurs émissions, donc le secteur de l'industrie, puisque vous voyez que là, au contraire, les émissions se sont réduites, le secteur de l'énergie, c'est-à-dire la production d'énergie, et puis l'agriculture, tout le secteur de l'agriculture et de la sylviculture, qui, elle, a au contraire, je dirais, stocké du CO2 à travers l'augmentation de la forêt, par exemple, et puis qui a fait des progrès sur les pratiques agricoles. Et puis, le dernier, ce qui reste, c'est les déchets, où les décharges émettent du méthane, et on a petit à petit rationalisé, récupéré ce méthane pour éviter les émissions. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la France va tenir les engagements de Kyoto qu'elle a pris, qui seront finalisés à la fin 2012. On fera le bilan fin 2012. On aura tenu nos engagements. Grosso modo, l'Europe aura tenu ses engagements, mais ce n'est pas évidemment la solution au niveau mondial. Et pour ce qui nous concerne, on a deux inquiétudes sur les secteurs, les transports et le bâtiment notamment. Alors, avant ces décisions de Copenhague, et pour les préparer, l'Europe a d'ores et déjà, sous présidence française en décembre dernier, pris un certain nombre d'engagements dans ce qu'on appelle le paquet climat et énergie, qui est un accord entre tous les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, des 27 États membres de l'Union européenne, à un horizon qui n'est pas l'horizon 2050, l'horizon au-delà. Cet horizon, je le rappelle, le facteur 4 en 2050, la France a pris cet engagement pour 2050, d'autres États européens l'ont pris, et très récemment, ce qui est déjà un bon signe, le président Obama a annoncé que les États-Unis réduiraient à l'horizon 2050 de 80%, donc une division même par 5, leurs émissions. Reste à voir comment on va y arriver, quel va être le cheminement d'ici là. L'Europe a donc s'est fixé, alors c'est ce qu'on appelle le 3x20 à l'horizon 2020. Trois objectifs pris par l'ensemble des pays européens. Le premier est de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Pour mémoire, au niveau européen, c'était moins 8% dans le protocole de Kyoto. Et qu'elle porterait cet effort de 20% à 30% si d'autres grands pays émetteurs prenaient des engagements du même ordre. Donc 20%, vous voyez que c'est quand même pas encore une division par quatre, mais l'idée, c'est quand même nous mettre sur une trajectoire résolue de diminution de nos émissions. Deuxième engagement, lui contraignant comme le premier, qui est d'augmenter la contribution des énergies renouvelables dans notre mix énergétique, de faire en sorte que les énergies renouvelables représentent 20% de la totalité des consommations d'énergie. Et puis un troisième, d'améliorer de 20% l'efficacité énergétique par rapport à la tendance à ce qui se ferait sans avoir de politique nouvelle. Donc c'est une inflexion essentielle pour nous mettre sur la trajectoire du facteur 4. Et puis c'est aussi pour l'Europe se mettre en position de leader, puisque c'est les engagements les plus ambitieux qui soient annoncés d'ores et déjà vis-à-vis de la conférence de Copenhague de la fin de l'année. Alors, au-delà de 2020, comment on peut arriver à diviser par 4 nos émissions ? Alors, vous avez ici, il y a beaucoup de choses sur cette diapositive, mais finalement, c'est la même que celle des trajectoires d'émissions que je présentais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez nos émissions en ordonnée sur l'axe vertical avec toujours nos 28 milliards de tonnes émis chaque année par l'ensemble des habitants de la planète. Et puis, vous avez ce scénario qui est ce qu'on appelle en anglais business as usual, c'est-à-dire on ne change rien, on continue pareil. Et à ce moment-là, on arriverait en 2050, non pas à 28, mais à 62 milliards de tonnes de CO2, donc évidemment complètement en dehors et sur des perspectives d'augmentation de température phénoménale. Alors l'AIE, qui est l'Agence internationale de l'énergie, dont le siège est à Paris, qui est basé à Paris, mais qui rassemble l'ensemble, je dirais, des pays développés de la planète, a travaillé sur quelles sont les options pour réduire ces émissions. Là, il s'agit uniquement des émissions de CO2, puisque j'ai dit qu'il y avait également le méthane d'origine et puis quelques autres gaz, mais encore une fois, l'essentiel de l'effort, c'est sur le CO2. Et vous voyez que l'Agence internationale de l'énergie a construit un scénario qu'ils appellent Blue Map, qui permettrait effectivement en 2050 de diviser par deux et d'arriver aux 14 milliards de tonnes seulement d'émissions. Alors, ça ne se fait pas avec une seule technologie. Vous voyez que l'AIE a identifié toute une série de technologies, Donc, je vais commencer par le bas. L'efficacité au niveau des combustibles que nous utilisons dans nos maisons, dans les transports, dans les voitures. L'efficacité de nos consommations d'électricité. Les substitutions utilisées plutôt du gaz que du charbon, parce qu'il y a moins de CO2 quand on utilise du gaz que du charbon. La production d'énergie, être plus efficace dans la production, dans les centrales électriques, 7%. Les énergies renouvelables, 21%. Alors ces pourcentages, c'est des pourcentages pour passer de 62 à 14. Le nucléaire compte 6%. Et puis, vous en avez peut-être entendu parler, l'idée de capturer, stocker le CO2 qui est émis et de l'enfouir dans le sous-sol, dans des formations géologiques pour éviter qu'il soit dans l'atmosphère et qu'il ait donc cet impact sur le réchauffement climatique. Alors, globalement, ce qu'on peut voir, c'est que l'efficacité énergétique, c'est plus d'un tiers de la solution, selon l'AIE, pour réduire nos consommations, l'efficacité énergétique au niveau des usages de l'énergie. Les énergies renouvelables, c'est 21%. Et puis, cette option de captage et stockage, en gros, en sortie des cheminées, c'est de séparer le CO2, de le transporter, de l'enfouir sous terre, c'est quand même de l'ordre de 19%, 20%. Donc, ça montre que ces technologies, ces options technologiques seraient à même, d'après leur potentiel, maintenant, c'est un potentiel technique, à même, allez-y, mais peut-être que je... Parce que le stockage du CO2 peut être fait... Il y a deux grands secteurs qui émettent du CO2 de façon concentrée. L'optique de capter du CO2 et d'aller l'enfouir, on ne peut pas le faire à la sortie des pots d'échappement des voitures. Il faut que ce soit des installations très concentrées. On a deux types d'installations de combustion très concentrées. On a les centrales thermiques qui brûlent du charbon, du gaz et encore un peu de pétrole pour faire de l'électricité. Donc là, on a des cheminées avec du CO2. On peut... le séparer des oxydes d'azote et autres gaz. Et puis, on a des industries fortement consommatrices d'énergie. Alors, c'est la sidérurgie, c'est l'industrie du ciment, c'est l'industrie du verre, ce qu'on appelle les industries grosses consommatrices d'énergie. Donc, c'est les deux, mais bon, effectivement, les techniques sont à peu près les mêmes. On l'a vu, donc, parmi les options, au-delà de ce captage et stockage du CO2, qui est une option certainement pas la solution, vous voyez qu'elle ne représente qu'une part. En plus, on ne l'a pas encore validé. Ça fait partie des choses sur lesquelles nous avons des recherches pour savoir si est-ce que c'est une option que nous pouvons considérer. En tout état de cause, notre point de vue et celui de l'ADEME, c'est que ça ne doit pas nous éviter de faire le maximum d'efforts sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Mais je crois que le graphique le montrait par lui-même. Alors, les énergies renouvelables, c'est des options très prometteuses. J'y reviendrai dans certaines parties de mon exposé, mais il y a une conférence de Jean-Louis Ball dans ce cycle de conférences qui vous parlera plus précisément des énergies renouvelables et de ce qu'on peut en attendre, qui produisent de l'électricité, qui permettent de produire de l'électricité, qui permettent de produire éventuellement des carburants avec la deuxième génération ou la troisième, qui permettent également de produire de la chaleur, puisque le bois, la combustion de la biomasse permet de chauffer, la géothermie permet de chauffer, etc. Alors, je crois que au-delà de ces énergies renouvelables, et comme vous l'avez vu, la première option, et celle sur laquelle nous accordons la plus grande priorité, c'est l'efficacité énergétique, parce que c'est là où nous pouvons réduire les consommations d'énergie. Et je crois que c'est bénéfique non seulement pour nous, pour éviter des gaspillages dans nos pays développés, mais c'est vrai, et c'est également le cas pour ces pays en développement, ces pays émergents qui ont besoin d'énergie, qui ont besoin d'accroître aussi leur consommation d'énergie pour se développer. Et comme vous le voyez à travers les différences d'éclairage de la Terre, il y a encore un potentiel important par rapport aux populations qui sont dans les pays du Sud. Alors je reviens à ce qui nous concerne, nous plus particulièrement, les Français, et si vous voulez, ces 7 tonnes tout à l'heure que j'évoquais de CO2 par an, je les ramène maintenant à un ménage français de 2,45 personnes dans un ménage. Et si on divise la totalité des émissions de la France par les 25 millions de ménages que nous sommes, on a 17 tonnes de CO2 par an. Donc chacun des ménages, en moyenne, on émet 17 tonnes. Et vous avez ici donc la répartition. Alors c'est à peu près la même chose que le camembert sur Kyoto que je vous présentais, sur la situation de la France par rapport à Kyoto. Mais là, c'est un peu vu de nous-mêmes, de ce que nous faisons, de notre activité. Parce que, in fine, toutes les activités, c'est quand même pour produire des biens, des services, pour se déplacer, pour se chauffer. Alors, vous avez trois parties dans ce camembert. Tout ce qui est sur la partie ici, en haut à droite, hein, c'est les traits rouges qui la délimitent, le chauffage des logements et les appareils électriques domestiques, c'est la maison. Tout ce qu'on fait à la maison, les consommations d'énergie induites et ce que ça génère en CO2. Vous avez toute la partie déplacement des personnes que nous déplaçons en voiture, en train, en avion. Ça représente, vous voyez, 3,7 tonnes, presque un quart des émissions pour ces transports. Et puis tout le reste, c'est l'énergie qui est consommée dans les bureaux, au travail, sous forme de chauffage ou d'électricité. La fabrication des produits, tout ce que nous consommons, va générer des consommations d'énergie, va générer des émissions de CO2, et il faut bien transporter ces produits, donc des transports de marchandises. Donc finalement, tout ce qui est à gauche, c'est, j'allais dire, notre caddie. Quand on va au supermarché, alors c'est pas que le caddie, c'est aussi tous les biens, les services que nous achetons, que nous consommons. C'est les entreprises, évidemment, qui produisent ces produits, la responsabilité de tout ça. Alors ça, c'est vu du consommateur. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est les entreprises qui émettent à travers ces produits. Certes, et c'est pas pour culpabiliser, ni déculpabiliser les uns ou déculpabiliser les autres, mais c'est pour montrer qu'on a finalement toute cette partie droite qui est essentiellement dans la sphère privée, et puis la partie gauche qui est effectivement le résultat des activités des entreprises. Alors, aux imports ou exports près, in fine, c'est quand même ce que nous consommons. Nous ne pouvons pas effectivement faire les choix à la place des entreprises. Mais quand nous achetons des produits, on a quand même parfois le choix. Acheter des fraises en hiver, c'est sûr que soit c'est des fraises qui viennent de très loin, qu'on voyage par avion avec beaucoup de CO2 pour les amener, soit c'est des fraises qui ont été cultivées sous serre et qui là aussi, il a fallu chauffer et il y a beaucoup de CO2. Donc s'il y a d'autres fruits, on peut faire des choix. Encore une fois, ce n'est pas pour culpabiliser, mais c'est pour montrer que nous avons une part de responsabilité. Dans les logements, c'est pareil. On n'a pas parfois le choix de notre logement, mais des fois, on est locataire, on n'a pas le choix. Sur les déplacements de personnes, on peut utiliser les transports en commun, mais quand on habite loin du lieu de travail, qu'il n'y a pas de transport en commun, on est obligé de prendre une voiture. Donc, on peut faire des choses, on n'a pas toute la responsabilité non plus. Alors, par rapport à ces trois grands pavés, si je puis dire, les bâtiments, les déplacements des personnes et ce que nous consommons, le panier du ménage, je vais rapidement passer en revue les trois pour vous dire quelle est la situation et puis qu'est-ce qu'on peut faire et comment peut se faire le facteur 4 au sein de ces différents postes de consommation. Alors, le bâtiment, c'est, Philippe Vandemalle l'a dit, 44% de l'énergie finale, 20% des émissions de gaz à effet de serre, à travers essentiellement le chauffage, mais pas que le chauffage, je vais y revenir. Et ça a été, dans le cadre du Grenelle de l'environnement, le premier objectif le plus important, parce que c'est celui où on a les solutions techniques. On sait ce qu'on peut faire sur les bâtiments, on sait qu'on peut réduire, et l'objectif, c'est, à l'horizon 2020, donc d'ici 11 ans, de réduire de 40%. Donc, vous voyez, par rapport à des 20% qu'on évoquait, là, vraiment, on a un objectif beaucoup plus ambitieux. Pour l'illustrer, la situation du bâtiment, j'ai sur la partie droite, ici, l'étiquette énergie des bâtiments. Cette étiquette, je ne sais pas si elle vous est familière pour les bâtiments, je pense qu'elle vous l'est pour tous les appareils électroménagers, les réfrigérateurs, les machines à laver, etc. C'est la même étiquette qui est maintenant obligatoire sur les bâtiments, depuis maintenant 2 ans, obligatoire au moment où on vend, où on achète un bâtiment, le vendeur doit fournir cette étiquette, c'est-à-dire faire un diagnostic, il fait faire un diagnostic et il a cette étiquette. Et également au moment du changement de locataire, s'il y a un locataire il faut qu'il change, on fait un nouveau bail, il faut cette étiquette. Alors l'étiquette, elle renseigne, comme sur un réfrigérateur, si c'est un bâtiment économe, c'est plutôt en haut. Et si c'est rouge, c'est un bâtiment qui est une passoire énergétique. Actuellement, la moyenne, pour que vous voyez un petit peu où on est, la moyenne du parc existant, de l'ensemble des logements, c'est à peu près dans le E. Donc, c'est des consommations. Alors, en fait, l'unité de mesure, c'est des kilowattheures par mètre carré par an. Ça veut dire qu'on consomme tant de kilowattheures. Actuellement, les bâtiments neufs, parce qu'il y a eu des réglementations thermiques qui impose maintenant, chaque fois qu'on construit des logements, à ce qu'ils soient un peu plus efficaces. Ces réglementations, elles existent depuis 1975, après le premier choc pétrolier, et elles ont été renforcées, c'est-à-dire qu'on a diminué, enfin, on a augmenté les exigences, c'est-à-dire consommer de moins en moins pour les logements neufs. Donc, les logements neufs, c'est la réglementation qui date de 2005, maintenant, elle est à peu près au niveau de C. En fonction des zones climatiques, ces coefficients sont à peu près là. Les décisions qui ont été prises, c'est qu'en 2012, on sera au niveau de B. Donc, pour tous les logements neufs, voyez, on augmente ce niveau d'exigence pour les logements. Mais les logements, c'est 1% seulement. Enfin, les logements neufs, c'est 1% seulement de renouvellement du parc par an. Donc, si vous faites le calcul, ça veut dire que en 2050, deux tiers des bâtiments qui existeront en 2050 sont déjà construits, sont d'ores et déjà construits. Donc, il faut bien sûr faire des bâtiments de plus en plus performants, mais il faut s'attaquer aussi au parc ancien, réhabiliter les logements, faire des travaux de réhabilitation. Alors, toujours dans les décisions qui ont été prises dans le cadre du Grenelle, c'est 2012, je vous ai dit, on était en B. En 2020, c'est au-dessus du A. Alors, comme sur les frigos, il y a du A+. Là, il y a un A+, c'est bâtiment énergie positive. Alors, bâtiment énergie positive, ça veut dire c'est des bâtiments qui vont être tellement efficaces qu'ils vont très, très peu consommer d'énergie. Éventuellement, l'énergie qui se consommeront seront celles qu'on va apporter, puisque nous, quand on se déplace dans un appartement, on produit de l'énergie. Et que les énergies renouvelables qui seront installées sur le bâtiment vont compenser la consommation. Alors, ça veut dire qu'il y aura quand même une consommation, sans doute, mais qu'elle sera compensée parce que le bâtiment deviendra aussi producteur d'énergie et que le bilan net sera positif, ce sera producteur d'énergie. Alors, pour ça, il y a des technologies qui sont en développement. Bon, d'ores et déjà, comme vous le voyez, en 2012, on va avoir des bâtiments on va diviser par deux pour les bâtiments neufs. Il faut pour les bâtiments anciens. Alors, il y a des technologies qui se développent sur des super isolants très minces pour pouvoir les mettre justement dans des logements anciens où on ne peut pas mettre forcément de la laine de verre épaisse, donc des matériaux comme des aérogels, des vitrages électrochromes intelligents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des vitrages dont la transparence et la capacité à laisser passer les rayonnements solaires va changer suivant justement le rayonnement solaire et la température. Donc ils vont être commandés électriquement et leur capacité de réflexion ou de transmission de la lumière va être commandée en fonction du climat et de l'ensoleillement. Ça veut dire qu'en été, ils vont plutôt réfléchir de la lumière et qu'en hiver, ils vont plutôt l'absorber et retenir la chaleur à l'intérieur des logements. Des matériaux à changement de phase qui vont permettre de stocker la chaleur qui va être produite par le soleil dans la journée sur les façades et qui va être restituée la nuit. Des façades intelligentes à double peau, ça veut dire avec des doubles surfaces modulables de façon effectivement à s'adapter au changement de climat. Tout ça, ce sont des technologies qui existent d'ores et déjà, qui sont développées et qui vont être à notre disposition. Donc au niveau, vous voyez, du bâtiment, du chauffage, on va arriver à faire des progrès importants. Ça va être plus difficile dans l'ancien. Et notamment, il va falloir former des professionnels parce que toutes ces techniques nécessitent des mises à niveau. Mais on a quand même un problème, et là, j'avais commencé à en parler tout à l'heure, sur les consommations d'électricité dans nos logements. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans en termes de consommation d'électricité chez nous? Je ne parle pas du chauffage électrique qui est inclus dans la partie précédente où je parlais du chauffage. Là, je parle de ce qu'on appelle l'électricité spécifique. Ça veut dire que c'est des usages où on ne peut pas utiliser une autre énergie que l'électricité. En 1997, vous voyez qu'un ménage français par an consommait 3000 kWh par an. Et ces 3000 kWh, vous voyez qu'il y avait un gros poste de consommation. Ce qui est vert, c'est le froid, c'est-à-dire réfrigérateur, congélateur. Il y avait l'éclairage, le brun, c'est la cuisson. Alors la cuisson, c'est pas tout à fait, ça peut être autre chose que l'électricité. Et puis, vous voyez le bleu qui était tout ce qui était de l'audiovisuel, c'est-à-dire télévision, radio, Wi-Fi, etc. Et puis, quand on regarde 10 ans après, on consomme toujours pareil, toujours autant. On n'a pas diminué nos consommations. Mais vous voyez les fortes évolutions qui se sont passées. C'est-à-dire que le froid, il a énormément diminué. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette étiquette énergie qui a conduit, alors pas seulement vous et moi et nous, à choisir des meilleurs frigos au début, parce qu'on a regardé comment ça se passait. L'impact, le premier impact a été sur les fabricants qui se sont dit, je ne peux pas me permettre de mettre un frigo de classe G sur le marché. On espère que sur les bâtiments, il y aura cet impact aussi. Donc, il y a eu sur le froid, sur les lave-linges, sur les lave-vaisselles, ces gains. Et sur l'éclairage, avec, vous voyez, une baisse de l'éclairage, alors qu'on s'éclaire pas moins bien, mais on a des lampes plus efficaces à économie d'énergie. Et puis, alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le poste audiovisuel, vous voyez, qui était à ce niveau-là, il a fortement augmenté. Et également, ce qui est apparu, qui était négligeable il y a 10 ans, c'est la consommation liée à l'informatique. Alors, je parle de l'informatique, donc des ordinateurs, des imprimantes périphériques informatiques chez nous, mais je ne parle pas là des serveurs informatiques qui, eux, sont pas effectivement dans la maison, mais qui consomment beaucoup parce qu'il faut les refroidir de façon continue pour qu'ils puissent fonctionner. Donc, vous voyez qu'en 2007, on a 30% de nos consommations d'électricité qui sont dues à ce secteur et qui est en forte croissance. Donc ça, c'est un sujet d'inquiétude parce que c'est des appareils qui se renouvellent très rapidement et on n'a même pas le temps de mettre en place ces étiquettes, c'est-à-dire de faire les analyses de cette imprimante, elle consomme combien, etc., que déjà, elle n'est plus sur le marché et que c'est un autre appareil. Alors, par exemple, les téléviseurs que nous avions il y a 12 ans, c'était des téléviseurs à tube cathodique, bon, peut-être encore, certains, et maintenant, les téléviseurs à plasma ont des consommations beaucoup plus importantes et on a multiplié par plus de 2 les consommations moyennes des téléviseurs chez nous avec l'utilisation de ces nouveaux appareils qui sont certainement beaucoup plus agréables, mais il faut regarder quel est l'impact multiplié par 2 en 12 ans. Tous les périphériques, alors vous avez au-dessus de façon individuelle, enfin je dirais pour tous les périphériques audiovisuels, alors c'est quoi? C'est tout ce qui est les décodeurs, les lecteurs de DVD, les transmetteurs, les box, etc. Tous ces appareils ont des consommations unitaires qui ne sont pas négligeables. Vous avez en dessous les périphériques informatiques. Alors, vous voyez, par rapport à 3000 globalement de consommation d'électricité, on est déjà à des seuils pour chacun qui ne sont pas négligeables. Et alors, ce qu'il faut regarder, c'est que sur ces consommations unitaires moyennes, la partie verte, c'est ce qu'ils consomment en veille. En rouge, c'est quand ils fonctionnent. Donc, ce qu'on voit, c'est que tous ces appareils, enfin, certains d'entre eux, ont des consommations beaucoup plus importantes, in fine, globalement, dans l'année, en veille, que quand on s'en sert. Et la totalité de ces consommations en veille, ça représente 2 tranches nucléaires pour les alimenter. Donc si, et ça, ce n'est pas de l'énergie qu'on pourrait regretter, si des décodeurs, vous voyez, les plus consommateurs, c'est les décodeurs ou des imprimantes qui restent en veille. Donc ça, c'est quand même un sujet aussi de préoccupation parce que, encore une fois, il y a une rotation très rapide des modèles. C'est très difficile de mettre en place ces étiquettes. Alors, ce qu'on a trouvé, c'est des engagements volontaires des fabricants pour qu'ils fassent des veilles inférieures à 1 watt. Les décodeurs, c'est 25 watts, la consommation en veille. Et donc, ils s'engagent maintenant à en faire 1 watt. Alors, je reviens sur les bâtiments. On a donc quand même des options, des solutions, surtout vis-à-vis du chauffage, pour avoir des bâtiments à énergie positive. Donc, c'est des bâtiments qui vont être très peu consommateurs d'énergie, qui vont être super isolés, une étanchéité à l'air, mais avec et des fenêtres performantes, mais des systèmes de ventilation. Il ne s'agit évidemment pas de se mettre dans des boîtes où il n'y aurait pas de renouvellement de l'air pour des questions sanitaires, puisque l'air intérieur est souvent beaucoup plus pollué que l'air extérieur. Et qui vont nécessiter peu ou pas de chauffage. Et puis finalement, le fait de rajouter des énergies renouvelables, soit pour le chauffage, soit pour l'électricité avec du photovoltaïque, va faire qu'on va être sur des bâtiments à énergie positive, raccordés ou non au réseau. Alors, ces bâtiments à énergie positive, ils existent déjà. Vous avez ici une photo d'une tour de bureau à peu près de 8 étages qui a été inaugurée à Dijon en avril dernier. Et qui est une tour à énergie positive, c'est-à-dire qu'elle produit plus d'énergie qu'elle en consomme, une tour de bureau, et qui a été réalisée sans surcoût par rapport à une tour classique qui répondrait simplement à la réglementation existante. Donc, on sait le faire. Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours à coût nul, mais on sait d'ores et déjà le faire. Et puis, quand on va avoir ces énergies renouvelables, comme le photovoltaïque relié au réseau sur les toits des maisons, intégré sur les façades des bâtiments, petit à petit, il y a un enjeu qui est important, c'est que le consommateur d'énergie que nous sommes va devenir un producteur d'énergie. Et globalement, on va donc revendre notre courant produit avec ce photovoltaïque ou par des éoliennes, mais ce sera sans doute plus souvent quand c'est intégré au bâtiment du photovoltaïque. On va devenir des producteurs d'énergie. Alors jusqu'à présent, les réseaux électriques, c'était quoi? C'était des grandes centrales nucléaires, fossiles, des barrages, qui produisaient de l'électricité, et puis après, on avait des réseaux de transport, des réseaux de distribution et des consommateurs. Tout ça va changer fondamentalement, parce que de plus en plus, on va avoir des productions décentralisées. Alors, au niveau de fermes éoliennes, au niveau de petits groupements, de petites centrales photovoltaïques, mais aussi au niveau des bâtiments. Alors, d'ores et déjà, ça existe, ça commence à se développer dans le sud de la France, en Alsace aussi, parce que en Alsace, il y a beaucoup d'énergie renouvelable. Il y a des tarifs de rachat qui sont très intéressants, mais ces tarifs de rachat sont tellement intéressants qu'on a beaucoup plus intérêt à revendre systématiquement toute l'électricité qu'on produit que de la consommer, parce qu'on nous la rachète trois fois plus cher. Ça, c'est fait pour développer le photovoltaïque. Donc, ça va se développer avec un problème pour ces réseaux. Comment gérer des réseaux où on a des multiples productions, et notamment les réseaux de distribution. Donc ça, c'est un sujet de recherche et de savoir comment on va gérer ces nouveaux réseaux avec des productions au niveau de beaucoup de bâtiments, des usages chez l'habitant qu'on sait maintenant qu'on va pouvoir moduler dans le temps. Vous savez que d'ores et déjà, les chauffe-eau se mettent souvent, ceux qui ont un tarif, qu'on appelle un double tarif, le chauffe-eau, il se met en marche à 10 heures la nuit. Bon, c'est parce qu'on pense que les gens, ils n'ont pas besoin, l'eau chaude, elle est prête, on ne va pas utiliser beaucoup d'eau chaude la nuit. On sait maintenant, avec toutes les technologies de l'information et de la communication, qu'on va pouvoir aller beaucoup, beaucoup plus loin et qu'on va pouvoir réguler nos usages, nos besoins d'électricité en fonction de la disponibilité d'énergie. Ça veut dire, alors je caricature, mais que la machine à laver va se mettre en marche quand l'éolienne se mettra à tourner. Ou plutôt, quand l'éolienne se mettra à tourner, elle enverra un signal en disant, si vous avez une lessive à faire, c'est le moment, j'ai de l'énergie. Tout ça avec des systèmes informatiques et automatiques. Alors, on voit que ça peut aller quand même très très loin, parce qu'on va avoir aussi du stockage. On va pouvoir, chez nous, avoir de l'énergie. Soit on fera appel à l'énergie du réseau, soit on aura notre énergie, soit on va en stocker une partie. Et on va pouvoir dire, finalement, moi, j'ai besoin de linge propre demain ou dans 7 heures, mais j'en ai pas besoin dans une demi-heure. Et l'électricité, elle n'a pas la même valeur à chaque moment. Ça varie beaucoup en fonction de la demande globale. Donc ça, c'est un sujet qui est très important, sur lequel on va aussi faire des démonstrateurs à la fin, on va lancer dans le courant de l'année, de façon à pouvoir expérimenter avec des nouveaux dispositifs. Et d'ores et déjà, pour vous dire que ce n'est pas pour après-demain, d'ores et déjà, de nombreuses entreprises qui ne sont pas des fournisseurs d'énergie travaillent sur des box, alors comme les box qu'on a pour Internet, mais qui seront des box qui nous aideront à gérer l'énergie. Alors là, il peut y avoir différentes options. Ça peut être comme si on a sur les téléphones mobiles où on ne sait pas très très bien les tarifs qu'on nous propose, où on peut avoir un encadrement, une certaine régulation qui fait que tout ce qu'on nous proposera sera quand même dans l'intérêt du consommateur et de l'environnement. Ça fait partie des enjeux, qui ne sont pas que techniques. Alors, après les bâtiments, je passe au transport pour avancer, le temps tourne. Alors, les transports, c'est l'autre grand secteur. Vous avez à gauche, là, l'évolution des consommations d'énergie des transports en France depuis 1990, en indice. Vous voyez une croissance régulière, forte, jusqu'en 2000, jusqu'au début de cette décennie. Et puis là, une certaine stabilisation. Alors, il y a deux choses, on interprète de deux façons, deux facteurs, cette stabilisation. D'abord, la hausse des prix de l'énergie depuis 2000 et des carburants significative. Et puis, une certaine saturation des déplacements induits par le développement économique. Alors là, l'objectif qui a été fixé en France, c'est de réduire de 20% nos émissions et donc nos consommations, parce que là, c'est à peu près la même chose, parce que la route est l'essentiel des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre dans les transports à l'horizon 2020. Alors, qu'est-ce qui détermine ces consommations d'énergie? Je crois que les formes urbaines sont un élément déterminant, et c'est ce qui est la difficulté de l'action dans le domaine des transports. Vous avez un graphique qui est très connu dans le domaine de l'aménagement. Vous avez ici, sur l'axe horizontal, la densité des villes dans le monde. Et puis, sur l'axe horizontal, la consommation de transport par habitant. En gros, un habitant dans une ville, est-ce qu'il consomme plus ou moins? Alors, vous avez à droite, là, les villes très denses, Hong Kong, qui a une consommation d'énergie très faible parce que les gens ne se déplacent pas beaucoup, et surtout en transport en commun, parce que la ville est très dense. Et vous avez au contraire, tout en haut, Houston, une ville américaine, donc très étendue, un étalement urbain très fort. Il n'y a pas de transport en commun, tout le monde circule en voiture, donc des consommations d'énergie très élevées. Alors vous avez ici toutes les villes américaines, plus ou moins denses, l'Australie, là, toutes les villes européennes qui se situent ici. Alors, ce qu'il faut se rendre compte, c'est l'écart de consommation qui est phénoménal. Vous avez, au sein même des villes européennes, des écarts de 1 à 2. Au sein des villes américaines, des écarts de 1 à 2. Et entre le modèle européen et le modèle américain, des écarts de 1 à 5. Donc, vous voyez en quoi c'est déterminant la façon dont la ville est construite. Et le problème, c'est que la ville, on ne la construit pas, on ne la reconstruit pas tous les 5 ans, tous les 10 ans. Donc, là, il y a une détermination très, très forte de la densité et de ses impacts sur les déplacements des personnes. Alors, ces déplacements par rapport à 2050, 2020, 2050, quel va être le véhicule en 2050? Est-ce que par rapport à l'image de ce qu'on peut faire sur les bâtiments, qu'est-ce qu'on va faire sur les transports au niveau technologique? Quelles sont les options? Vous les connaissez sans doute, vous en avez entendu parler. On a effectivement des options de véhicules électriques. Je ne parle pas de la jamais contente là, qui figure, qui avait fait 100 km/h, mais qui n'a pas, qui ne s'est jamais industrialisé, puisqu'on a eu des moteurs à explosion, des moteurs. Il faut bien voir que dans le domaine automobile, les constructeurs automobiles sont sur la même technologie depuis un siècle. Alors, c'est essence ou diesel, mais enfin, c'est à peu près quand même, c'est très semblable, et que ça a toujours été cette même technologie. Alors après, bon, on met des choses au-dessus de la voiture, mais ça change pas beaucoup la technologie. Alors, on sait qu'on a des options maintenant qui sont très différentes. On a des biocarburants de deuxième génération, parce qu'on sait que la première génération pose les problèmes important vis-à-vis de la compétition avec l'alimentaire parce qu'on utilise le fruit des plantes. La deuxième génération, c'est quoi? C'est utiliser les tiges, c'est utiliser la partie lignocellulosique des plantes, les arbres, les déchets organiques et produire des carburants à partir de ces substrats. Ce n'est pas encore gagné, on fait des recherches, on a des démonstrateurs pour essayer de voir si on va y arriver et quelle va être, est-ce qu'on aura quand même assez de terre pour cultiver ces forêts, qu'est-ce que ça va représenter? Il y a des recherches. Il y a le véhicule tout électrique. On sait que ça fait longtemps qu'on essaye, qu'il y a eu des échecs, mais actuellement, il y a des implications très fortes des constructeurs automobiles. Il y a l'hybride rechargeable, qui est donc, vous avez sans doute entendu parler d'une voiture Prius, hein, pour ne pas la nommer, qui est hybride, mais qui n'est pas rechargeable. C'est-à-dire qu'on ne la branche pas sur le secteur. C'est le moteur de la voiture qui recharge les batteries. Là, maintenant, on va disposer dans très peu de temps d'hybrides rechargeables, c'est-à-dire on pourra les brancher sur le secteur. À la fin de l'année, à Strasbourg, vont être expérimentés une centaine de véhicules hybrides rechargeables et qui auront une autonomie en tout électrique de 40 km, alors que la Prius, actuellement, c'est 5 km d'autonomie en électrique. Alors, parmi aussi les recherches, je voulais vous citer ce moteur roue qui est un objet technique développé par Michelin, qui est une roue. Alors, c'est une roue normale, à la taille normale. Et puis, dedans, il y a un moteur électrique pour la traction, un moteur électrique pour la suspension. Et l'idée, c'est d'avoir 2 ou 4 roues qui intégreront ces éléments technologiques. Alors, cette roue, les véhicules ont été montrés au dernier mondial de l'automobile, au salon de l'auto. Actuellement, nous travaillons avec Michelin pour qu'ils intègrent dans cette roue non seulement la traction et la suspension, mais également la direction et le freinage. Et le freinage, ce ne sera plus avec des mâchoires qui pincent un disque qui tourne. Il n'y aura plus de frottement. Ce sera le moteur qui va récupérer par induction l'ensemble de l'énergie produite par le freinage et qui va donc contribuer à recharger pour partir les batteries. Mais il n'y aura plus de frottement et de pincement dans le freinage. Alors, ces recherches technologiques permettraient d'imaginer des véhicules dans lesquels toutes les parties mécaniques habituelles n'existent plus, il n'y a plus qu'un joystick pour conduire la voiture, et le châssis est formé de batteries qui peuvent être chargées ou changées pour le véhicule. C'est des projets de recherche actuellement sur lesquels nous soutenons des constructeurs automobiles et Michelin pour réaliser des prototypes qui devraient rouler bientôt. La commercialisation sera aussi, je l'espère, pas trop lointaine. Et puis, une option sur les piles à combustible et hydrogène qui existe également, mais qui est peut-être un peu plus lointaine. Mais vous voyez, toutes ces options sont en face de nous. Elles ne sont pas encore commercialisées. Elles sont pas encore, et on ne sait pas s'il y en aura une, s'il y en aura deux, si toutes ces options seront disponibles et à quel horizon on pourra en disposer. Maintenant, on a quand même un problème par rapport à 2050. C'est qu'on se dit 2050, c'est très loin. Mais quand vous regardez quelle est la vitesse de renouvellement, de la pénétration d'une technologie dans le parc automobile, ça a été le cas pour les pots catalytiques ou les filtres à particules. En général, on met ces nouvelles technologies sur les véhicules de plus haute gamme parce qu'elles sont plus coûteuses et que ça représente un surcoût plus faible que sur une petite voiture. Donc, en fait, on a la pénétration sur les voitures neuves qui va prendre le temps qu'on le développe dans toutes les gammes. Et puis après, une fois que ce sera dans toutes les gammes, il faut le temps que le parc se renouvelle. Ce qui fait que, in fine, pour qu'une technologie pénètre 95% du parc, il faut 24 ans. Donc vous voyez que si on veut qu'en 2050, on ait certaines technologies, il faudra qu'entre autour de 2020, ces technologies soient déjà, d'ores et déjà, disponibles et prêtes à être introduites sur le marché. Alors, il y a une option sur laquelle on a travaillé avec des constructeurs automobiles, des experts, de regarder, mais finalement, la moitié de nos consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre liées à la voiture, c'est en ville. C'est pour des parcours urbains qui, en général, sont inférieurs, bien inférieurs à 100 km, et dans lesquels on n'est pas obligé d'avoir un véhicule qui pèse 2 tonnes, qui peut transporter 5 personnes, qui a des performances de 130 km/h et une résistance au choc correspondant à ses vitesses. On peut très bien imaginer d'avoir des plus petits véhicules urbains. Jusqu'à présent, les constructeurs automobiles, français et étrangers aussi, pensaient qu'il n'y avait pas de marché pour ce petit véhicule urbain parce qu'on ne peut pas avoir de voiture. Et donc, il faut avoir une voiture qui peut tout faire. Ça a été le dogme pendant des décennies. Et puis maintenant, on voit bien que ça va changer parce qu'effectivement, il faudra bien changer, c'est plus possible. Et donc, on peut très bien imaginer des petits véhicules, et maintenant tout le monde y réfléchit, qui seraient petits, légers, donc moins consommateurs, plus facilement électrifiables parce qu'on n'a pas besoin d'une autonomie, qui est le problème du véhicule électrique, au-delà de 100 km ou 200 km, et ça, on sait le faire maintenant. Et puis, ce seraient des véhicules qui n'auraient pas forcément même 4 roues, ça peut être des 3 roues ou des 2 roues. Vous avez ici un petit dessin d'un projet. On appelle ça des TQM, tri ou quadricycle à moteur. Et à travers ce qu'on voit aussi entre les motorisations actuelles des 2 roues, il y a des 3 roues. Maintenant, on voit qu'il va pas se passer beaucoup de choses. Vous avez ici un petit véhicule urbain japonais. Et alors, le problème, c'est finalement, est-ce que ce véhicule urbain, il faudra l'acheter? Et là, effectivement, il y a une équation économique qui n'est pas évidente. Mais ce qu'on voit, c'est que ça ne pourra pénétrer, et certainement que ça va pénétrer, avec des innovations sur les services. Alors, on pense tout de suite, évidemment, au Vélib ou à Autolib ou à des systèmes comme ça, de véhicules partagés. Finalement, est-ce qu'on a besoin pour nos déplacements en ville? Alors, on gardera peut-être une belle berline pour nos déplacements en vacances, mais on pourra avoir des services où, à la demande, sous différentes formes, on pourra utiliser ces engins motorisés pour nous déplacer au-delà des transports en commun. Alors, je n'ai pas parlé des transports en commun. C'est évidemment l'option la plus efficace, la plus intéressante, la plus économique de déplacement. Mais c'est vrai que les transports en commun ne peuvent pas aller dans tous les endroits, dans les périphéries des villes existantes. Et pour les villes où il n'y a pas effectivement de transport en commun, il y aura encore certainement un usage de véhicules individuels. Alors, quelles seront ces villes durables? On voit qu'on aura des maisons à énergie positive. Ça, on sait les faire. Il y a encore un surcoût. Le problème, c'est de faire les villes existantes positives. On va avoir des réseaux intelligents. Alors, ici, c'est une photo pour vous montrer un petit peu ces affaires de photovoltaïque intégrées sur les toitures. J'ai dit que ça se développait dans le sud de la France de plus en plus. Ça, c'est une ville japonaise où il y a 543 maisons qui ont des générateurs photovoltaïques sur le toit. C'est un démonstrateur, comme on le dit. Et les Japonais expérimentent qu'est-ce que ça pose comme problème. Parce qu'à midi, quand il y a beaucoup de soleil, le réseau électrique de distribution n'est pas capable d'absorber la totalité de l'énergie produite. Donc, il y a du stockage chez les habitants. Donc, on aura certainement aussi le stockage. Et puis, un élément qui est important, c'est que finalement, tant qu'à stocker cette électricité, pourquoi pas la stocker dans une batterie qui est mobile, qui a 4 roues, et à ce moment-là, ça s'appelle un véhicule électrique. Et effectivement, l'énergie qui sera produite par le photovoltaïque, on pourra la stocker sur des véhicules électriques pendant qu'on n'a pas besoin effectivement de l'utiliser. Et ça encore, ce n'est pas pour si longtemps que ça, puisqu'il y a des expérimentations. Alors, je vais, pour terminer, évoquer le dernier volet. On a parlé des bâtiments, des transports, celui finalement de notre caddie, de notre consommation quotidienne. Mais avant, bon, qu'est-ce que c'est qu'un citoyen consommateur responsable? C'est un consommateur qui est informé, qui est conscient de l'impact de son mode de vie. Donc pour ça, il y a des étiquettes, on l'a vu, il y a beaucoup de dispositifs. Mais c'est vrai qu'on est encore loin d'avoir une connaissance fine de tout ce que nous faisons. C'est des gestes citoyens. Alors les gestes citoyens, c'est un peu les gestes quotidiens. Maintenant, il y en a beaucoup qui sont rentrés un peu dans les mœurs. Le tri des déchets, l'éco-conduite, des achats responsables. Et puis, je crois qu'au-delà, c'est aussi, je dirais, une attitude, une façon de regarder nos modes de consommation, une certaine sobriété énergétique, privilégier les circuits courts. Alors, les circuits courts, c'est effectivement acheter plutôt du maraîchage que des produits qui viennent de l'autre bout du monde. C'est des produits de saison plutôt que ceux qui sont cultivés aussi ailleurs, des matériaux locaux renouvelables. Donc je crois que tout ça participe aussi d'une nouvelle attitude d'un consommateur citoyen responsable qui n'est pas non plus quelqu'un qui est sous le joug d'une régulation, d'une contrainte forte. Alors, d'ici, pour ce qui concerne justement tous ces produits que nous consommons quotidiennement, il ne s'agit pas de nous interdire de consommer des fraises en hiver. Il s'agit simplement peut-être déjà de nous faire prendre conscience que quand on achète un produit, bah oui, il a un certain contenu carbone. Ça veut dire que pour le produire, pour le cultiver, pour le transporter, il a fallu émettre du CO2. Et donc dans les décisions du Grenelle, en 2012, tous les produits de consommation courante, c'est-à-dire tous les grands distributeurs, vous les reconnaîtrez peut-être à travers leurs étiquettes, devront afficher sur les produits le contenu carbone. Et puis quand on passera à la caisse, eh ben on aura le total du carbone contenu dans notre caddie. Alors, vous voyez, là, ça existe déjà, certaines étiquettes. C'est des vraies étiquettes, hein, ce n'est pas un montage. C'est des distributeurs qui, d'ores et déjà, alors pas dans l'ensemble de leurs supermarchés ou le font, mais le font à titre expérimental et travaillent avec l'ADEME. Alors, nous, on est chargé surtout de faire les bases génériques, c'est-à-dire un kilo de pétrole, une tonne transportée en avion sur tant de kilomètres, ça fait combien de CO2. Puis après, eux, ils utilisent ces chiffres pour, à partir de chacun des produits, le préciser. Et souvent, bah, sur les étals, il y a le choix pour un même produit. Et donc, l'idée, c'est quand même que ça nous incite. Alors, ça peut être de l'information. C'est sûr qu'à terme, on pourrait imaginer que ce ne soit pas que de l'information, mais que cette valeur, parce que le carbone, il va avoir une valeur dans nos économies. Vous savez qu'avec ces affaires de permis négociables, les entreprises vont payer et payer de plus en plus le carbone. Alors, avec la crise économique, il a dégringolé, son prix a dégringolé sur les marchés. Mais après Copenhague, s'il y a des engagements forts, ce prix, cette valeur du carbone dans nos économies va être une réalité pour tous les acteurs, comme les entreprises, comme aussi les États. Et finalement, ce qu'on appelle l'internalisation, bah, ça pourrait être de dire, bah, voilà, ça a un coût, bah, on va le mettre dans la facture parce qu'il faut bien le payer quelque part. Donc, ça fait partie des réflexions. Alors, je vais conclure alors en essayant de vous faire passer peut-être le ou les messages essentiels que je voulais vous faire passer avant que d'écouter vos questions. On est dans un monde de plus en plus complexe. Ces problèmes d'environnement, ce n'est pas simple. Il n'y a pas une solution. Il n'y a pas une énergie, une solution. Si j'ai dit les économies d'énergie, c'est la priorité, oui. Mais il n'y a pas que ça et on aura besoin de tout. Ensuite, je suis persuadé, j'espère que les exemples, alors je ne vous ai pas dessiné comment on vivra en 2050, je le sais pas, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore ouvertes. Je pense qu'on a à la fois besoin de nouvelles technologies, et de toute façon, nous aurons des nouvelles technologies, mais c'est à nous de choisir lesquelles, c'est à nous de préciser, et que ces technologies, de toute façon, elles induiront des nouveaux modes de vie. Ça, c'est important parce que dans les 10 ans passés, il y avait un grand débat entre les Américains et les Européens dans la négociation internationale. Les Européens, bon, toujours bon élève, mais enfin bon, au départ en tout cas, disaient il faut changer les modes de vie, etc. Et les Américains disaient nous, on ne change pas nos modes de vie. Vous savez, c'était Bush père qui avait dit ça. Le mode de vie des Américains n'est pas négociable. Et c'est la technologie qui va nous sortir d'affaires, donc on ne change rien, on va faire des voitures à hydrogène, etc. J'espère que d'après ce que je vous ai montré, c'est que ça ne sera pas comme ça. De toute façon, on changera nos modes de vie. Même si on n'aura pas à en souffrir, même si ce ne sera pas forcément un handicap, nos modes de vie vont changer. Et puis, je crois qu'à travers ça aussi, c'est penser le long terme, c'est d'oser penser à dire bah, finalement, en 2050, pour moi, peut-être, pour mes enfants, mes petits-enfants, comment ça va être, comment on va vivre, etc. Et puis que rien n'est joué, je crois que ce qui est important, c'est d'identifier les signaux faibles. J'évoquais par exemple les consommations, les circuits courts, etc. On voit, il y a par exemple les AMAP, nous c'est des choses qu'on regarde. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que ça change dans la société? Et on voit que ces signaux faibles vont être peut-être les choses porteuses de demain, les choses vers lesquelles on aura envie d'aller. Voilà, et puis qui nous feront peut-être plus être qu'avoir. Merci.
Merci. Nous allons passer aux questions. Je pensais, en vous écoutant, à la conclusion qu'il va falloir qu'on redéfinisse complètement nos conférences. Hein. On va supprimer le micro, le PowerPoint, l'éclairage. On va revenir à l'époque de Kant avec juste une bougie. Voilà. Bon, alors, allez-y. Monsieur, je prends le premier. Madame, allez-y, premier. Allez-y.
Oui. Actuellement, il semblerait que le réchauffement donc la température est plus rapide que prévu. Est-ce que les facteurs que vous avez donnés, 2 et 4, que vous avez indiqués dans votre conférence, est-ce qu'ils ne sont pas déjà dépassés? Parce que avec le réchauffement climatique, dans les toundras, les réserves de méthane et de gaz à effet de serre peuvent se libérer, qui sont dans le permafrost actuellement. Est-ce que ça a été pris en compte dans les facteurs? Est-ce que où est-ce qu'on en est? Est-ce que dans l'avenir, est-ce que ce ne sera pas nécessaire d'avoir des directives beaucoup plus autoritaires pour pour changer les modes de vie éventuellement?
Oui. Oui, vous avez raison qu'il y a des sujets d'inquiétude et que les modèles des scientifiques qui lient le niveau d'émissions, le réchauffement, des échéances sont pas parfaits, qu'ils savent très bien qu'ils n'intègrent pas certains phénomènes d'emballement. Et ce que vous évoquez sur la fonte du permafrost, le permafrost, c'est les terres gelées, notamment de Sibérie, qui contiennent des molécules de méthane. Ça a été évoqué récemment dans les médias, si ce permafrost vient à fondre, parce qu'on a des buts de réchauffement, il va accélérer le réchauffement et on va vers un système d'emballement. Oui, c'est une inquiétude certaine. Cela dit, alors voilà, maintenant, je passe à la deuxième partie de votre question. Il faut faire prendre conscience qu'effectivement, il y a ces enjeux, il y a ces difficultés. Il faut prendre des décisions. Alors après, quand on passe au niveau des décisions, parce qu'on vous dit, est-ce qu'il ne faut pas être plus contraignant? Oui, j'étais pendant 8 ans dans la délégation française qui négociait Kyoto. Et on est face à des pays, on est face à des gouvernements qui doivent prendre des décisions, qui prennent des décisions dans ces négociations internationales et qui après ont à en rendre compte au niveau de leur parlement, au niveau de leur électorat. On est dans des pays démocratiques. Il faut bien voir qu'aucun gouvernement ne prendra une décision s'il n'a pas une adhésion de la population. Donc, vous voyez que c'est quand même compliqué. Être contraignant, certes, mais qui va exercer cette contrainte si les gens ne sont pas convaincus, s'il n'y a pas un mouvement, si on ne montre pas qu'on peut aller dans cette direction? Donc, je crois que maintenant, il y a une prise de conscience importante qui se fait, mais il faut bien voir que ce n'est pas aussi facile de dire on va prendre des décisions fortes. Et on regarde, j'évoquais les négociations internationales parce qu'on est face, on est aussi dans des situations où on se dit, si on prend des engagements très forts mais qu'on est tout seul, que le CO2 il soit émis à Paris ou à Pékin, c'est pareil. Et quand on est dans les négociations, on est face à des États qui n'ont pas les mêmes prises de conscience qui ont des impératifs aussi de développement qui ne sont pas les mêmes. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ce n'est pas simple.
Madame, ici.
S'il vous plaît, monsieur, j'aurais voulu une réponse à 3 questions. D'abord, on ne parle pas des motos, qui ont également une consommation de plus en plus grande et qu'on utilise de plus en plus dans les villes en remplacement de la voiture. La deuxième question concerne le verre. Le verre utilise beaucoup d'énergie pour être fabriqué, et si on fait des doubles pots, on utilise encore plus d'énergie. Est-ce que le verre est une bonne... Et on utilise également... une climatisation importante, est-ce que le verre est une bonne solution? Et la troisième question concerne le photovoltaïque. Mmh. Il y a un grand nombre, peut-être 20% de résidences secondaires, dans lesquelles les gens ont environ 3 mois par an. Et si ces maisons étaient équipées de photovoltaïque, l'énergie pourrait être récupérée, et ce serait donc une très bonne énergie renouvelable. Seulement, pour que les particuliers qui ont des résidences secondaires le fassent, il faudrait ou bien que ce soit décidé par les entreprises qui font l'électricité, ou bien qu'elles aient des compensations, parce que quand on propose aux gens de s'équiper en photovoltaïque, ils refusent de le faire pour 3 mois de consommation par an. Je vous remercie.
Bien, merci beaucoup. Alors, trois questions qui intéressantes et importantes. Bon, les motos, c'est vrai que les deux roues, alors, consomment pas forcément aussi que des gros véhicules, mais consomment et certaines motos. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu, il n'y avait pas de réglementation sur les pollutions, alors pas que le CO2, mais les pollutions des deux roues. Donc, c'est quelque chose qui est en train de changer. C'est évident qu'on va développer également des objectifs. Alors, ce n'est pas forcément des réglementations qui obligent à avoir un certain niveau, mais des objectifs de consommation plus faibles pour les deux roues. On voit que c'est, dans les villes, ça se développe beaucoup parce que c'est une option évidemment intéressante par rapport au temps de déplacement, par rapport aux encombrements. Maintenant, moi, ce dont je suis persuadé, c'est que l'option électrique sur les deux roues va se développer et est en train de se développer à très grande vitesse. Sur les deux ou trois roues, on va avoir de plus en plus ces options. Alors, avec attention quand même sur le véhicule électrique, l'électricité produite, enfin consommée par les véhicules électriques sont a priori plus efficaces en termes d'énergie. Mais l'électricité, on n'émet pas de CO2, mais pour la produire, selon comment on la produit, on émet ou pas du CO2. Quand c'est de l'énergie renouvelable ou nucléaire, il n'y a pas d'émission de CO2. Quand c'est de l'énergie thermique comme du charbon ou du gaz, là, effectivement, il y a des émissions de CO2, qui fait qu'il faut avoir un mixte énergétique qui a peu de CO2. Mais bon, tout ça sur les motos, pour vous dire vous avez raison, mais je pense que les options électriques vont se développer et sont en train de se développer, y compris dans les deux roues. Sur le verre, alors... Oui, le verre est un matériau qui consomme beaucoup d'énergie pour sa fabrication, qui émet donc du CO2 parce qu'on consomme des combustibles pour la fabrication du verre. Cela dit, il a quand même aussi des avantages. Bon, alors d'abord, des avantages de confort parce qu'il nous procure de la lumière naturelle. Ça diminue aussi les consommations. Si on avait des maisons sans vitres, on n'aurait pas d'éclairage naturel, donc toujours de l'éclairage artificiel, donc des consommations plus importantes. Si dans les technologies qu'on développe de plus en plus, effectivement, d'abord le verre, il devient très isolant parce qu'a priori, une couche, une lame de verre, ce n'est pas très isolant du tout. C'est pour ça que les simples vitrages ne sont pas efficaces. On développe des technologies qui permettent, et comme je l'évoquais, des verres électrochromes qui vont être très performants, ne pas laisser passer la lumière, etc. Donc je crois que ce n'est pas un matériau qu'il faut bannir de la maison. Maintenant, là où vous avez tout à fait raison, c'est que de plus en plus, à partir du moment où les maisons vont être de plus en plus isolées et performantes énergétiquement, l'énergie qu'il aura fallu dépenser pour les construire va être proportionnellement plus importante, et même en valeur absolue, parce qu'on aura fait des matériaux de plus en plus complexes. Et donc, il va falloir prendre en compte ça, et c'est ce qu'on va faire aussi sur des démonstrateurs pour regarder est-ce que finalement, il n'y a pas des options plus efficaces au niveau de la construction que d'autres. Et c'est là que la filière bois, par exemple, la France est un pays où il existe très, très peu de construction bois, ossature bois et naturel. Ça, on essaye de le développer, mais très, très peu par rapport à des pays scandinaves, sans parler des pays nord-américains, où là, il y a des filières de construction bois qui sont systématiques. Donc ça, le bois est un matériau qui nécessite beaucoup, qui émet beaucoup moins de CO2 au contraire, il stocke du CO2 qui est dans l'atmosphère, puisque la photosynthèse, c'est prendre le CO2 qui est dans l'atmosphère pour le mettre dans l'arbre. Donc, c'est important. Le photovoltaïque et les résidences secondaires, oui, vous avez raison. Alors, actuellement, pour promouvoir le photovoltaïque, il y a deux types de mesures. Il y a un crédit d'impôt pour les particuliers, 50%, qui est significatif. Ça veut dire que, et c'est un crédit d'impôt, hein, ce n'est pas une diminution d'impôt. Ça veut dire que c'est aussi pour les gens qui ne payent pas d'impôt. Ils ont un crédit d'impôt. Mais il faut que ce soit la résidence principale et pas la résidence secondaire. Et l'autre mesure, c'est le rachat, le tarif de rachat. Et ça, c'est valable pour les résidences secondaires ou principales, où là, vous avez une installation photovoltaïque. Toute l'électricité qui est produite est rachetée, en gros, trois fois plus cher que celle que vous consommez. Donc, il y a quand même des incitations intéressantes et importantes. Le législateur n'a pas considéré que le crédit d'impôt était pour les résidences secondaires.
Bien, en haut. Essayez de raccourcir un peu les questions, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps.
Oui, alors ma question concernait en fait les transports routiers. On a vu sur un graphique que finalement c'était un poste de consommation qui était encore en augmentation. Et en fait, je voulais poser la question si ça ne remettait pas en cause un peu les politiques de flux tendu sur les entreprises, puisqu'en fait, c'est ce qui explique qu'on transporte à toute berzingue du fer à béton de Varsovie jusqu'en Espagne, par exemple. Enfin bon, est-ce que c'est bien judicieux alors qu'on a des canaux qui pourraient faire ça avec un coût beaucoup moindre ?
Oui, là vous parlez du transport de marchandises hein, et pas de passagers. Je ne me suis pas étendu, je ne peux pas parler de tout. Vous avez tout à fait raison. Bon, c'est vrai qu'on a fait des études, effectivement, d'autant que c'est... Il y a plusieurs choses. Il y a le flux tendu et puis la délocalisation des fabrications et des différents produits. On a regardé le nombre de kilomètres que parcourait un pot de yaourt en Europe pour venir sur nos étalages. C'est hallucinant. On fabrique des morceaux de l'emballage, du lait, etc. Et tout ça se fait effectivement sous des logiques dites de flux tendu, de juste à temps, etc. Alors, ces logiques, elles sont très ancrées effectivement dans la logique des entreprises. C'est assez difficile, mais bon, il y a des évolutions qui se font. Bon, j'ai vu le travail qu'avait fait une grande entreprise de parfums et de produits de luxe français pour faire un bilan carbone et de regarder finalement ce que j'émets comme carbone, alors pas seulement sur mon entreprise, mais à travers toute mon activité, qui a réalisé qu'effectivement, faisait voyager des liqueurs, des parfums par avion, alors que c'était des choses qu'il fallait plutôt faire vieillir, enfin je parle des liqueurs en tout cas, et qui donc a transformé complètement son transport par bateau, où ça coûte, puisque c'était dans les quatre coins du monde, ça émet beaucoup moins de CO2. Bon, c'est vrai que c'est pas encore... pour tout le monde. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le prix de l'énergie va augmenter, le prix du transport va augmenter, et moi, je suis persuadé que ça va conduire à des réarbitrages rationnels vers, effectivement, une moindre délocalisation des productions par rapport aux consommateurs.
Ici.
Bonsoir, monsieur. Je tenais à vous remercier pour votre intervention extrêmement intéressante et synthétique. Pour finir sur une note concrète, peut-être, je voulais vous poser une question. Vous avez fini en disant qu'en tant que consommateur, on pouvait essayer de changer. Il y a des entreprises aujourd'hui qui se proposent, qui proposent des services et des produits qui changent. Et je voulais votre avis sur une entreprise qui s'appelle Enercop. Je ne sais pas si vous travaillez ensemble avec l'ADEME. C'est une entreprise qui fournit de l'électricité verte, c'est-à-dire, ou plus verte en tout cas, solaire, éolien, petite hydraulique, et qui est disponible pour les consommateurs que nous sommes, pour les entreprises, etc., etc. Donc je voulais avoir votre avis. Il y a des solutions qui existent. Est-ce qu'elles sont viables à l'heure actuelle?
Oui, alors, je ne suis pas certain que je connaisse Enercop, mais je ne connais pas tous les gens qui travaillent avec l'ADEME, parce qu'on a beaucoup d'activités, beaucoup de relais, de partenaires. Alors, Enercop, je ne connais pas, c'est sans doute une coopérative de production qui propose de l'électricité verte, comme on dit, hein, c'est-à-dire que de dire, voilà. Mais bon, il n'y a pas que ces coopératives qui le proposent, même EDF propose des tarifs et d'autres fournisseurs, parce que vous savez, maintenant, il n'y a pas que EDF qui propose de l'électricité, propose des tarifs dans lesquels il y a garantie une part d'énergie renouvelable. Alors évidemment, on ne compte pas les électrons, on ne sait pas si les électrons qui arrivent chez vous, c'est des électrons qui viennent d'une éolienne ou qui viennent d'autre chose. Mais le fournisseur, il a un parc, et puis il sait qu'il peut garantir jusqu'à... Alors s'il a 10% d'énergie renouvelable dans son parc, il sait qu'il pourra garantir pour 10% de ses consommateurs qu'il y a une énergie qui est verte. Alors dans certains pays, il y a des certificats verts également qui servent justement à rendre compte à ce que ce soit contrôlé.
Alors, on va prendre encore trois questions seulement, une ici encore, puisqu'elle se redouble, une ici et une en haut, hein, parce que c'est 8 heures et il va falloir qu'on arrête.
Allez-y, oui, bonjour. Donc, vous avez beaucoup parlé de nouvelles technologies et de changements de comportement. Moi, je voulais savoir comment, d'un point de vue réglementation, on va accélérer ces changements de comportement et la mise en place de ces nouvelles technologies. Donc, quel sera le rôle de l'ADEME là-dedans? Est-ce qu'on va mettre en place une taxe carbone? À quelle échelle? À quelle hauteur? Et donc, ma deuxième question, c'est comment ça se passe si une entreprise veut faire le bilan carbone de son activité ou d'un de ses produits, et comment est-ce qu'elle le certifie? Vous avez montré une étiquette tout à l'heure montrant le bilan carbone d'un produit. Comment est-ce qu'on saura si le bilan carbone a bien été fait ou si l'entreprise a triché? Enfin, comment ça se passe concrètement, quoi?
D'accord, merci.
Merci.
Oui, alors je vais vite. Hein.
Oui, vite.
Bon, je crois que vous avez évoqué plusieurs, ce qu'on appelle les instruments des politiques publiques. Comment on fait quand on dit, bah, il faut, alors il y a de la réglementation sur les constructions. Vous voyez, on fait des seuils réglementaires. On dit, bon, il ne faut pas faire des bâtiments qui soient moins efficaces que tel niveau. Ce n'est pas l'idéal partout, parce que la réglementation, il y a des endroits où il en faut, il y a des endroits où ce n'est peut-être pas l'idéal. Alors, vous avez évoqué la taxe. Moi, il y a une réglementation qui me semble qui peut être intéressante sur tout ce qui est des véhicules et les transports en ville. C'est le stationnement en surface. Vous, une municipalité, je crois que ça se passera peu ou prou comme ça, une municipalité, quand elle dira le stationnement en surface, il est réservé aux véhicules verts, hein, ce sera les uns ou les autres, bah, à ce moment-là, ça va induire des transformations sur le parc de véhicules très, très, très rapides. Et par exemple, favoriser des petits véhicules urbains qui seront électriques, etc. Ça peut être des... Vous avez évoqué la taxe. Alors, la taxe, c'est quoi? C'est un signal prix. Je crois que c'est nécessaire. Il en faut. Alors, je l'ai évoqué, bah, effectivement, l'affichage, on donne une étiquette. À terme, on peut penser à une taxe. Vous savez qu'il y a eu une annonce, effectivement, récente, qu'allait être mise en place par le gouvernement une conférence de consensus sur une, alors ce qu'on appelle, c'est Nicolas Hulot qui a eu cette proposition, une contribution climat-énergie. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, hein, on mettrait une taxe sur l'énergie, et cette taxe, elle ferait un produit qui ne serait pas gardé par l'État, mais qui serait redistribué, alors, à tous ceux qui la payent, aux entreprises qui la payent, aux ménages qui la payent. Mais elle serait répartie, alors on peut discuter de la façon dont elle serait répartie, mais en gros, de façon uniforme. Ce qui fait que les gens qui consomment beaucoup, bah, ils paieraient un peu plus, et puis ceux qui consomment moins, ils paieraient moins. Je pense que c'est quelque chose à regarder qui est intéressant. Voilà. Alors, bilan carbone aussi, si rapidement, un bilan carbone, bah, c'est une méthode qui a été développée par l'ADEME. On forme on appelle ça des bureaux d'études, qui font des bilans carbone. Ils les font pour des entreprises, et donc, c'est une méthode, ils sont a priori formé. Alors, rien n'empêche, puisque maintenant, ça va devenir obligatoire pour certaines entreprises, il y aura à ce moment-là, évidemment, un contrôle sur, sur ces bilans carbone. Actuellement, ceux qui feront, par exemple, les diagnostics de performance des bâtiments sont certifiés.
Avant-dernière question et dernière.
Vous avez parlé de voitures qui seraient partagées, en quelque sorte, le Autolib... Dernière nouvelle, je crois avoir entendu, enfin lu dans un journal gratuit qu'il y avait des problèmes et que c'était retardé, presque abandonné. Enfin, c'est remis à plus tard, d'après ce que j'ai lu dans un journal gratuit. Alors, qu'est-ce qu'il en est de Autolib, quoi?
Attendez, Autolib, c'est un projet qui est porté par la ville de Paris. Je n'ai pas des informations précises sur ce projet précis, mais ce qu'il y a, c'est que des voitures partagées, ça existe déjà. Il y a, alors, sous des formes qui sont plus... comment dire, je vais dire confidentiel, c'est-à-dire qu'il y a des associations à Paris, dans d'autres villes, en Europe, ça s'est beaucoup développé, en Amérique du Nord aussi, c'est des associations, on adhère, on a une carte, on va chercher un véhicule, à Antibes, je sais qu'il y a des véhicules comme ça, partagés, qu'on peut utiliser. Alors, il y a différents mécanismes, en général, bon, on est adhérent, et on peut utiliser un véhicule quand on en a besoin. Alors, le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait une échelle suffisante pour qu'effectivement, il y ait suffisamment de véhicules et d'utilisation pour que ça fonctionne bien. Je n'ai pas dit que ça allait être en 2010 tout de suite la solution. Mais je pense que c'est quelque chose qui est important à regarder. Ce ne sera pas forcément que Autolib, on peut avoir beaucoup d'autres dispositifs, en gros, de ne pas être propriétaire de sa voiture.
Dernière question en haut, monsieur.
Bonsoir, merci pour votre exposé. Je voudrais revenir sur votre conclusion. Vous avez mis une ligne où vous avez suggéré qu'il fallait passer de l'avoir à l'être. Ça me plaît bien un petit peu, et je pense que dans la société de consommation dans laquelle on vit, on est peut-être amené à passer à une société de frugalité. Vous avez beaucoup insisté sur la technologie, la technique, la science pour faire cette transformation, et en même temps, dans votre exposé, j'ai cru comprendre que c'était à travers l'évolution de la consommation d'électricité, par exemple, un des facteurs du problème. Donc moi, je voulais savoir un petit peu voilà, si on a des pistes de cette... changement de société vers laquelle on va, et notamment, quelle est l'éducation, quelle est la place de l'éducation dans cette transformation de notre humanité? Merci.
Merci pour votre question. Je ne crois pas que je vais arriver à y répondre ce soir. Non, mais c'est vrai que vous soulignez un dilemme peut-être dans ma présentation, et c'est vrai que c'est peut-être la part d'interrogation, de dilemme, j'apporte pas des solutions, mais je pense que effectivement il y a un partage, c'est-à-dire je suis pas tout à fait à l'aise avec simplement de dire on va changer nos modes de vie, on va aller vers la frugalité. Je pense que oui, mais on a aussi des technologies, on a des choses qui arrivent. Alors ces technologies, c'est pas forcément toutes les posséder, mais elles vont transformer notre monde. Donc il y a une ambivalence à travers ça, j'en suis bien conscient et certain. Finalement, je voulais vous faire partager aussi un petit peu ça, mais je suis sûr, comme vous le dites, qu'une certaine frugalité, une certaine... de regarder un petit peu, effectivement, entre ce qu'on possède et puis ce qu'on peut appeler le bien-être, comment on peut arbitrer entre les deux et que ça peut évoluer dans le temps. Alors ça, c'est encore sûrement un grand chantier. Mais je crois qu'il est aussi à la fois collectif et personnel, effectivement.
Bien, François Moisan, merci beaucoup.